Le journal de la nuit, c'est maintenant avec Sophie Tussaud.
C'est les cafés, les bistrots, les restaurants qui vont servir de variable d'ajustement. Et on va tout faire pour que ça passe bien.
Le pass sanitaire désormais obligatoire dans les cafés, restaurants et certains centres commerciaux. Vaccination obligatoire également pour les soignants. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi sanitaire mais retoque deux mesures. Et avec l'obligation d'avoir un pass sanitaire valide, de plus en plus de trafic de certificats de vaccination. Une journée historique à Tokyo pour les Français. De l'or, de l'argent et trois qualifications en finale. Retour sur cette incroyable journée dans ce journal. Pour réserver un hôtel, parfois mieux vaut directement appeler l'établissement. Ça peut être moins coûteux que de passer par une plateforme en ligne. Et puis le temps de demain, de la pluie au nord, du soleil au sud. La météo de Valérie Darmon en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les sages ont donc rendu leur décision. La loi sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation de vaccination pour certaines professions est en partie validée. Deux mesures sont toutefois retoquées. Bonsoir Olivier Samin. Quelle a été l'appréciation d'ensemble du Conseil constitutionnel ?
Eh bien, vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi. Il considère que la plupart des mesures qui étaient contestées par l'opposition opèrent une conciliation équilibrée, c'est le mot qu'il emploie, entre l'objectif de protection de la santé et le respect des droits et libertés. C'est pour cette raison qu'il donne son feu vert à l'obligation de présenter un pass sanitaire valide quand on se rend à l'hôpital. Cette règle, dit-il, dans la mesure où elle ne s'applique pas au cas d'urgence, n'a pas pour effet de limiter l'accès aux soins. C'est pour cette raison aussi qu'il ne s'oppose pas à l'application du pass sanitaire dans les grands magasins et les centres commerciaux au-delà d'un certain seuil et si la gravité du risque de contamination le justifie. C'est pour cette raison encore qu'il valide le fait que le pass sanitaire puisse être exigé pour accéder aux cafés-restaurants, y compris quand la consommation se fait en terrasse.
Et on le disait, il y a quand même deux mesures qui sont censurées.
Oui, alors il y a d'abord l'article 9 de la loi qui instaure l'isolement obligatoire pendant une période de 10 jours de toute personne testée positive au Covid. Les neuf sages considèrent que ça constitue une privation de liberté et que l'objectif de santé publique ne justifie pas que cette privation s'applique, comme c'était prévu dans le texte, sans intervention de l'autorité administrative ou judiciaire. Autrement dit, de manière systématique dès lors que le test est positif.
Et deuxième censure, Olivier, celle qui autorisait la rupture d'un CDD ou d'une mission d'intérim lorsque le salarié concerné n'a pas de passe sanitaire validé.
Oui, alors là, c'est la différence de traitement entre les salariés en CDI et leurs collègues en CDD ou en mission d'intérim qui ne passe pas. La loi prévoit que pour les premiers, il ne peut pas y avoir de licenciement, simplement une suspension de leur contrat de travail, tandis que pour les seconds, la rupture du contrat avant son terme est possible. Eh bien, le Conseil rappelle que les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, sont tous exposés au même risque de contamination et de transmission du virus et qu'on ne peut pas du coup sanctionner les uns plus que les autres.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Des réactions bien sûr à cette décision des sages, notamment celle des restaurateurs qui devront vérifier que leurs clients ont un pass sanitaire en bonne et due forme pour pouvoir s'attabler en salle ou en terrasse. Alain Fontaine est le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Il se résigne à accepter la décision.
On est un symbole de l'art de vivre et on dit aux Français, voilà, bah, si vous voulez profiter de votre art de vivre, vaccinez-vous et c'est nous. C'est les cafés, les bistrots, les restaurants qui vont servir de variable d'ajustement. Ça nous gêne. Et on va encore souffrir comme on souffre depuis maintenant 17 mois. On va tout faire pour que ça se passe bien. Tout le process, on va le mettre. Mais après, on n'est pas à l'abri d'un conflit majeur avec un client qui est à une table de 4 ou 5 ou même tout seul et qui veut absolument entrer dans notre restaurant. On fait quoi ? Comment vous faites pour renvoyer quelqu'un ? Moi, je ne sais pas faire. J'ai 46 ans de métier, je ne sais pas faire ça. J'ai pas appris à le faire. Moi, j'ai appris à dire bienvenue aux gens, à faire qu'ils soient bien chez moi, pourvu qu'il ne nous arrive pas la même problématique que pour les cinémas, qui ont perdu, comme vous le savez, 70% de leur fréquentation dès la mise en place du pass sanitaire.
Alain Fontaine, le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Autre son de cloche dans le milieu médical. Pour François Braun, président de SAMU Urgences de France, les sages ont fait preuve de bon sens.
Dès lors qu'un patient considère que son cas est urgent, il est urgent pour nous. L'hôpital est ouvert à tous, mais que simplement, si la personne n'a pas de passe sanitaire, avant de l'hospitaliser, si ce n'est pas une urgence, bien entendu, on lui fera un test antigénique pour vérifier qu'il n'est pas porteur du Covid, comme on fait d'autres tests pour s'assurer que les gens n'ont pas de maladie transmissible, s'ils doivent avoir un acte chirurgical ou des choses comme ça. Enfin, c'est le fonctionnement habituel, il n'y a aucune atteinte aux libertés, il n'y a aucune discrimination de qui que ce soit. L'hôpital public continue et continuera à accueillir tout le monde. Simplement, dans le cadre de cette pandémie, il est tout à fait normal qu'on s'assure du statut des personnes vis-à-vis de ce Covid-19, soit par le biais du pass sanitaire, soit par le biais d'un test qui serait réalisé à l'entrée de l'hôpital.
François Braun, président de SAMU Urgence de France, avec Marion Gauthier pour Europe 1. Du côté des Français, la vie est mitigée. Après l'annonce cet après-midi, des manifestations ont eu lieu dans Paris devant le Conseil d'État. Satisfecit en revanche de Jean Castex. Le Premier ministre estime que cette décision permettra le plein déploiement de la stratégie de lutte contre le Covid. Et dans cette stratégie, il y a également la vaccination. 65% des Français ont à présent reçu au moins une dose. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a affirmé qu'il y aurait bientôt une troisième dose de vaccin pour les plus fragiles à la rentrée. Décision malgré l'avertissement de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce contexte des trafics de faux certificats, après Lyon et Grenoble, c'est le vaccinodrome de Bordeaux qui est à son tour touché. Deux jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans, vacataires au centre de vaccination, ont été interpellées cette semaine. Elles sont soupçonnées d'avoir délivré de faux certificat de vaccination, Marion Dubreuil.
Oui, les deux contractuels émettaient les fausses attestations depuis les ordinateurs du vaccinodrome avec la carte vitale du bénéficiaire. Elles remettaient ensuite le précieux sésame à l'occasion d'un rendez-vous en centre-ville. C'est leur comportement suspect qui a alerté l'attention de leurs collègues, comme nous l'explique la commissaire divisionnaire Céline Plumaille, chef de la sûreté départementale en Gironde.
Les perquisitions qui ont été menées à leur domicile ont permis de découvrir des attestations qu'elles avaient délivrées au nom de tiers. Une des deux personnes a vraiment bénéficier en fait de rémunération contre la remise des attestations. Pour ce qui concerne la deuxième personne, elle n'a pas reçu de rémunération et a entre guillemets voulu rendre service. En tout cas, c'est ce qu'elle a déclaré. C'était vraiment sur le mode du bouche à oreille, hein, entre guillemets, pour ce qui concerne le recrutement des bénéficiaires des attestations Covid.
Les deux jeunes femmes seront jugées en janvier prochain pour faux et usage de faux. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Le parquet de Bordeaux entend également poursuivre les bénéficiaires de ce trafic pour détention d'un faux document.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Et du côté des chiffres, ce soir, à nouveau, beaucoup d'hospitalisations. 700 de plus qu'hier, dont 150 dans les services de réanimation.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
Dans l'actualité de ce jeudi également, cette folle journée pour les athlètes français aux Jeux Olympiques. Les Bleus qui remportent deux nouvelles médailles, ce qui fait 27 récompenses pour la France au total. Et pour commencer, Cyril de la Morinerie, on retient cette victoire historique pour le sport français.
Oui, Steven Dacosta devient le premier champion olympique de l'histoire du karaté. Le Français de 24 ans s'est imposé cet après-midi, heure française bien sûr, dans la catégorie des moins de 67 kilos. Déjà champion du monde, Steven Dacosta a battu en finale le Turc Samdam 5-0. Grande émotion pour le désormais champion olympique, originaire de Mont-Saint-Martin en Lorraine.
C'est la plus belle. C'est celle qui manquait, champion d'Europe, champion du monde, voilà, champion olympique, fin de l'histoire. Aujourd'hui, sans parler de moi, hein, le karaté a montré une très très belle, très très belle image aujourd'hui. Beaucoup de points, ça s'est battu. Franchement, après même moi sur mes phases finales, voilà, je fais deux beaux combats et je ramène une or quand même. Donc, après, celle-ci, elle ne s'effacera jamais maintenant. J'espère que j'aurais aimé aller en chercher une à Paris.
Et oui, le champion olympique Steven Dacosta ne pourra pas défendre son titre en 2024 puisque c'est le breakdance qui a été préféré au karaté pour les Jeux de Paris 2024.
Et Cyril, on a bien sûr suivi également la folle remontée de Kevin Mayer qui monte lui aussi sur le podium aujourd'hui.
Une sacrée remontada, effectivement. Il était cinquième hier au décathlon, Kevin Mayer, et il décroche une nouvelle médaille d'argent comme en 2016. Il était handicapé par des douleurs au dos, mais il a fait donc cette remontée avec notamment au javelot un superbe jet à plus de 73 mètres. C'est un record personnel battu avant de conclure en beauté sur le 1500 mètres, le 1500 mètres, donc en réalisant son meilleur temps de la saison.
Et sans oublier cette magnifique journée pour le sport collectif français.
Oui, avec d'abord les handballeurs français toujours au sommet. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont battu l'Égypte 27-23 en demi-finale. L'équipe de France, tenez-vous bien, de handball, va disputer sa quatrième finale olympique consécutive. Ce sera face aux Danois qui les avaient battus il y a 5 ans à Rio en finale. Le vétéran Guillaume Gilles, les trésorés, se projette déjà vers cette finale qui aura lieu samedi en début d'après-midi.
Satisfaction d'être au bon endroit. Satisfaction d'avoir avec ce groupe trouver notre chemin, et le chemin n'est pas terminé, il y a encore une marche. Ce qui nous attend est peut-être ce qui est encore plus difficile, avec cette ascension finale, elle est tout sauf anecdotique et elle va demander encore d'aller puiser très profond pour planter le drapeau français tout en haut.
Guillaume Gilles au micro de notre envoyé spécial à Tokyo, Bruno Cuase. Et puis Cyril, il y a le basket qui va retrouver les États-Unis en finale.
Oui, 21 ans après la médaille historique à Sydney, les Français retrouveront les Américains. Donc en finale, en 2000, les Bleus s'étaient inclinés face à la Dream Team américaine. Mais cette année, en début de tournoi olympique, les Français se sont imposés face à ces Américains. Ça pourrait donner des idées aux Français. Donc toute l'équipe de France mobilisée pour cette demi-finale, puisque les Bleus se sont imposés sur le fil face à la Slovénie cet après-midi, 90-89. Nicolas Batum, alias Batman pour les intimes, s'est transformé en sauveur. Le capitaine a réalisé un dernier contre décisif. C'est du bonheur, s'enthousiasme le consultant basket de Beansport, Jacques Monclar.
C'est absolument magnifique. On ne s'est pas rendu la tâche facile. Une perte de balle ici, un ou deux lancers francs laissés en route. Mais il fallait être fort, il fallait le gagner en les empêchant de marquer sur la dernière action. C'est jamais une position facile. Ces 16 secondes ont duré une éternité jusqu'au compte de Nicolas Batum et la récupération de ballons collectifs et l'explosion de joie qui s'en est suivie.
Pour terminer ce tiercé gagnant pour la France, eh bien, les Bleus du volleyball sont assurés de remporter leur première médaille olympique de leur histoire. Donc les Bleus de Laurent Tilly ont survolé la demi-finale face à l'Argentine, victoire 3-7-0. Ils retrouveront samedi après-midi en finale la Russie. Au total, la France est donc assurée de remporter au moins 30 médailles dans ces Jeux Olympiques.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. La justice a tranché concernant les droits TV de la Ligue 1. Le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison à beIN Sport. Il oblige Canal+ à respecter son contrat et assurer la diffusion des deux matchs de Ligue 1 par journée de championnat. Une décision rendue à la veille de la reprise du championnat de France de Ligue 1. Canal+ va faire appel de la décision. Toujours concernant le football, mes côtés terrain, ce tremblement de terre à Barcelone après 20 ans sous les mêmes couleurs. Lionel Messi quitte le Barça. L'Argentin ne signera pas de prolongation en raison d'obstacles économiques et structurels, a fait savoir le club catalan. Allez, on va parler vacances à présent. Et peut-être que pour vos réservations d'hôtels, vous êtes passé par une plateforme en ligne. On les pense plus avantageuses, mais ce n'est pas toujours le cas. Par souci de transparence, de nombreux hôteliers encouragent à réserver directement sur leur site internet ou par téléphone. Tout le monde y gagne, le professionnel et le client. Reportage à Zellenberg près de Colmar de Mélanie Fachin.
Dès qu'un client de l'hôtel-restaurant au Riesling réserve une chambre via une plateforme en ligne, Mélanie Brandt, la gérante, intervient. Elle lui suggère de passer directement par elle la prochaine fois. Tout le monde y gagne.
Pour les clients, ils ont des avantages au niveau du tarif, moins cher en direct. Il y a une souplesse au niveau de l'annulation pour nous, donc c'est très bien. On ne paye pas de commission. Quand on a une réservation sur Booking, nous payons 15% de commission et cette commission n'est pas taxée en France.
Bonjour mesdames. Bonjour. S'il vous plaît.
Et les incitations de Mélanie, visibles aussi sur son site internet, commencent à porter leurs fruits. 13% seulement des réservations en ce moment sont faites via Booking. Ludovic, venu passer 3 jours de vacances ici avec sa famille, a été convaincu.
C'est plus simple de travailler en direct avec les hôteliers que de passer par une plateforme de réservation où parfois on paye plus cher. Avec la période de Covid qui s'est passée et les fermetures des établissements et des restaurants pendant un an, ça a été assez compliqué pour eux. Ouais. Donc, c'est aussi une certaine manière de les soutenir.
Ludovic a ainsi économisé 10 euros par nuit et il aura même droit à une ristourne la prochaine fois qu'il séjournera dans cet hôtel. Zellenberg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et maintenant, il nous reste à voir le temps de ce vendredi, Valérie Darmon.
C'est très simple, hein. Toujours du soleil sur un petit quart sud-est, depuis les Alpes jusque sur le Roussillon, même si le ciel a tendance à s'ennuager sur le golfe du Lion. Pour le reste de la France, c'est toujours plus ou moins nuageux, mais surtout sensiblement moins pluvieux, excepté sur les Hauts-de-France et sur la Lorraine. Partout ailleurs, le ciel sera changeant, variable, entre éclaircies et nuages, avec le retour de très belles éclaircies sur la pointe Finistère. Les nuages y sont poussés par le vent qui souffle aux alentours de 60 km/h. Je vous donne quelques maximales. 21 annoncés à Nantes aux heures les plus chaudes, 22 à Rouen, 23 à Troyes, 24 à Paris, 26 à Mâcon, 28 à Perpignan et 30 degrés à Avignon.
Merci Valérie Darmon. On jette à présent un coup d'œil à la une de vos journaux demain. D'abord, un sourire et une belle médaille en une du Figaro. Steven Dacosta, un Français, premier champion olympique de karaté. À la une de vos journaux demain, c'est bien sûr, sinon, le pass sanitaire qui est majoritairement titré, comme le Figaro d'ailleurs. Le pass sanitaire jugé conforme à la Constitution. Le pass validé pour le Dauphiné. Feu vert quasi complet pour le pass sanitaire, titre Ouest France. Pass sanitaire, la route se dégage pour l'exécutif, a écrit l'Opinion. Quant à la Croix, il s'interroge sur le pass de la discorde, le pass sanitaire, un sujet âprement discuté dans les familles. À la une de vos quotidiens économiques, le début d'année flamboyant des géants du CAC 40, titre Les Échos. Des profits records de 57 milliards d'euros au premier semestre. Ils sont plus rentables et plus performants qu'en 2019. 6 d'entre eux concentrent la moitié des profits. Spectaculaire flambée des profits des géants du CAC 40, également en titre Le Figaro Économie. Les fleurons français ont réalisé au premier semestre un résultat net cumulé de 60 milliards d'euros. Libération, de son côté, choisit de s'intéresser au drame de l'immigration. Calais Douvres traverse ou crève. 482 migrants ont franchi la Manche dans la seule journée de mercredi. C'est un record. Libé a suivi pendant une semaine des exilés qui, face au contrôle toujours plus sophistiqué à la frontière, n'ont d'autre choix que de se lancer sur des embarcations précaires. Dossier à lire de la page 2 à la page 5 de Libération.